la courbe de tes yeux. Fais le tour de mon cœur, la courbe, courbe de tes yeux, de tes yeux. Fais le tour de mon cœur, la courbe, courbe de tes yeux. Fais le tour, tour de mon cœur.
Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, sur Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes, et que l'on peut écouter également sur Internet, sur le site radiofmplus.org. Je souhaite aujourd'hui présenter dans Jardin d'Isis des poèmes écrits par Yves Bonnefoy, poète contemporain. Les parents d'Yves Bonnefoy, Élie Bonnefoy et Hélène Maury, originaires du Lot et de l'Aveyron, étaient venus après leur mariage s'installer à Tours. L'un comme un ouvrier monteur aux ateliers de chemin de fer, l'autre comme infirmière. Il naît donc à Tours en 1923, fait des études secondaires puis de mathématiques et de philosophie à Tours, Poitiers puis Paris. À Paris, depuis 1944, effectue des voyages, notamment en Méditerranée et en Amérique, réalise des travaux sur l'histoire des formes et de moments de la poétique. Invité dans diverses universités depuis 1960 et professeur au Collège de France de 1981 à 1993. Il a publié de nombreux récits, de nombreux recueils de poésie, ainsi que des essais, et fait également effectuer des traductions. Ensuite, durant retournons à la poésie. Durant son adolescence, Yves Bonnefoy rencontra la poésie à travers le surréalisme. À Paris, après-guerre, il se lie d'amitié avec Brunner, rencontre Breton, fonde une revue violemment surréaliste, mais reste à distance du groupe. Les poèmes que je vais lire sont extraits du recueil « Les planches courbes » publié en 2001 aux éditions Mercure de France. De nombreux thèmes sont récurrents dans l'œuvre. Bonnefoy écrit à l'aube d'une époque qui est celle de la mort de Dieu, annoncée par Nietzsche, de la crise de l'humanisme, de la crise du lyrisme. En d'autres termes, Bonnefoy est un écrivain de la mort des idéaux. Le rôle du poète pour Yves Bonnefoy est d'être le gardien du cimetière des idéaux, d'esquisser un mouvement de retour à la croyance, à l'enfance, sans jamais pouvoir retourner au monde préverbal. Bonnefoy évoque en outre le passage de l'enfance à l'âge adulte. Pour lui, l'enfance est synonyme de sagesse. En effet, il préfère les sensations à la parole. Tel que son étymologie le montre, l'infance est celui qui ne parle pas. Les planches courbes désignent également un récit en prose poétique qui fait partie intégrante du recueil. Il s'agit de l'histoire d'un enfant qui traverse une rivière sur la barque du passeur, ce dernier finissant par le prendre sur ses épaules, les skiffs commençant à sombrer. La navigation de la barque aux planches courbes est une image de l'esprit qui donne forme à la matière et trace le sens de l'expérience. Or, cette navigation se fait grâce à la perche qui s'appuie sur le lit du fleuve. ce que je n'ai pas dit à propos de la biographie d'Yves Bonnefoy, entre autres, c'est qu'il a travaillé dans l'édition en éditant un dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique. Retournons à la lecture « Les planches courbes ». Yves Bonnefoy. L'homme était grand, très grand, qui se tenait sur la rive près de la barque. La clarté de la lune était derrière lui, posée sur l'eau du fleuve. À un léger bruit, l'enfant qui s'approchait, lui tout à fait silencieusement, comprenait que la barque bougeait contre son appontement ou une pierre. Il tenait serré dans sa main la petite pièce de cuivre. « Bonjour, monsieur, » dit-il, d'une voix claire, mais qui tremblait parce qu'il craignait d'attirer trop fort l'attention de l'homme, du géant qui était là, immobile. Mais le passeur, absent de soi comme il semblait l'être, l'avait déjà aperçu sous les roseaux. « Bonjour, mon petit, » répondit-il, « qui es-tu ?»« Oh, je ne sais pas, » dit l'enfant. « Comment, tu ne sais pas ? Est-ce que tu n'as pas de nom ?» L'enfant essaya de comprendre ce que pouvait être un nom. « Je ne sais pas, » dit-il à nouveau assez vite. « Tu ne sais pas, mais tu sais bien ce que tu entends quand on te fait signe, quand on t'appelle. On ne m'appelle pas. On ne t'appelle pas quand il faut rentrer à la maison, quand tu as joué dehors et que c'est l'heure pour ton repas, pour dormir. N'as-tu pas un père, une mère ? Où est ta maison, dis-moi ? » Et l'enfant, de se demander maintenant ce qu'est un père, une mère ou une maison. « Un père, dit-il, qu'est-ce que c'est ?» Le passeur s'assit sur une pierre près de sa barque. Sa voix vint de moins loin dans la nuit. Mais il avait eu d'abord une sorte de petit rire. « Un père, eh bien, celui qui te prend sur ses genoux quand tu pleures et qui s'assied près de toi le soir, lorsque tu as peur de t'endormir pour te raconter une histoire. » L'enfant ne répondit pas. « Souvent, on n'a pas eu de père, c'est vrai, » reprit le géant, comme après quelques réflexions. « Mais alors, il y a ces jeunes femmes, et douces, dit-on, qui allument le feu, qui vous assoit près de lui, qui vous chante une chanson. Et quand elle s'éloigne, c'est pour faire cuire des plats. On sent l'odeur de l'huile qui chauffe dans la marmite. « Je ne me souviens pas de cela non plus, » dit l'enfant, de sa légère voix cristalline. Il s'était approché du passeur qui, maintenant, se taisait. Il entendait sa respiration égale, lente. « Je dois passer le fleuve, » dit-il. J'ai de quoi payer le passage. » Le géant se pencha, le prit dans ses vastes mains, le plaça sur ses épaules, se redressa et descendit dans sa barque qui céda un peu sous son poids. « Allons, dit-il, tiens-toi bien fort à mon cou. » D'une main, il retenait l'enfant par une jambe, de l'autre, il planta la perche dans l'eau. L'enfant se cramponna à son cou d'un mouvement brusque avec un soupir. Le passeur put prendre alors la perche à deux mains. Il la retira de la boue. La barque quitta la rive. Le bruit de l'eau s'élargit sous les reflets dans les ombres. Et un instant après, un doigt toucha son oreille. « Écoute, dit l'enfant, veux-tu être mon père ?» Mais il s'interrompit aussitôt. La voix brisée par les larmes. « Ton père, mais je ne suis que le passeur. Je ne m'éloigne jamais d'un bord ou de l'autre du fleuve. Mais je resterai avec toi au bord du fleuve. Pour être un père, il faut avoir une maison. Ne comprends-tu pas ? Je n'ai pas de maison. Je vis dans les joncs de la rive. Je resterai si volontiers auprès de toi sur la rive. » « Non, dit le passeur, ce n'est pas possible, et vois d'ailleurs. Ce qu'il faut voir, c'est que la barque semble fléchir de plus en plus sous le poids de l'homme et de l'enfant, qui s'accroît à chaque seconde. Le passeur peine à la pousser en avant. L'eau arrive à hauteur du bord. Elle le franchit. Elle emplit la coque de ses courants. Elle atteint le haut de ses grandes jambes qui sentent se dérober tout appui dans les planches courbes. L'esquif ne coule pas. Cependant, c'est plutôt comme s'il se dissipait dans la nuit. Et l'homme nage, maintenant, le petit garçon, toujours agrippé à son cou. « N'aie pas peur, dit-il, le fleuve n'est pas si large. Nous arriverons bientôt. Oh, s'il te plaît, sois mon père, sois ma maison. » « Il faut oublier tout cela, répond le géant à voix basse. Il faut oublier ces mots, il faut oublier les mots. » Il a repris dans sa main la petite jambe qui est immense déjà, et de son bras libre, il nage dans cet espace sans fin de courants qui s'entrechoquent, d'abîmes qui s'entrouvrent, d'étoiles. L'impossible définition de la poésie manifeste le refus de Yves Bonnefoy de l'essentialiser et la volonté de la faire tenir au plus près du réel. La voix lointaine est une figure de l'inspiration ou de la muse en tant que lieu d'émergence de la parole poétique. Ce lieu d'émergence, cette matrice, le poète cherche à l'appréhender, à la définir. Mais elle se révèle indéfinissable, ou elle ne peut se fixer dans une définition. Elle demeure lointaine, loin du langage. La voix lointaine, Yves Bonnefoy. Je l'écoutais, puis j'ai craint de ne plus l'entendre, qui me parle ou qui se parle. Voix lointaine, un enfant qui joue sur la route. Mais la nuit est tombée, quelqu'un appelle. Là où la lampe brille, où la porte grince en s'ouvrant davantage, et ce rayon recolore le sable où dansait une ombre. « Rentre, chuchote-t-on, rentre, il est tard !»« Rentre, a-t-on chuchoté, et je n'ai su qui appelait ainsi du fond des âges. Quel marâtre !» Sans mémoire ni visage, quel mal souffert avant même de naître. Ou bien, je l'entendais dans une autre salle. Je ne savais rien d'elle, sinon l'enfance. Des années ont passé. C'est presque une vie qu'aura duré ce chant. Mon unique bien. Elle chantait, si c'est chanté, mais non. C'était plutôt entre voix et langage, une façon de laisser la parole errer, comme à l'avant, incertain de soi. Et parfois ce n'était pas même des mots, rien que le son dont des mots veulent naître, le son d'autant d'ombre que de lumière, ni déjà la musique, ni plus le bruit. Et je l'aimais. Comme j'aime ce son au creux duquel rajeunirait le monde. Ce son qui réunit quand les mots divisent. Ce beau commencement quand tout finit. Syllabe brève, puis syllabe longue. Hésitation de l'iambe. Qui voudrait franchir le pas du souffle qui espère et accéder à ce qui signifie. telle cette lumière dans l'esprit qui brille quand on quitte de nuit sa chambre, une lampe cachée contre son cœur, pour retrouver une autre ombre dansante. Et la vie a passé, mais te garda vive mon illusion, de ses mains savantes qui trillent parmi les souvenirs, qui en recousent presque invisiblement les déchirures, sauf que faire de ce lambeau d'étoffe rouge? On le trouve dans sa mémoire quand on déplace les années, les images, et brusque, des larmes montent et l'on se tait dans ses mots d'autrefois. Parler, presque chanter, avoir rêvé, de plus même que la musique, puis se taire comme l'enfant qu'envahit le chagrin et qui se mord la lèvre et se détourne. Elle chantait, mais comme se parlant. Qui a tiré sa barque sur la rive? Qui a posé sa rame sur le sable? Qui est passé que nous ne savons pas? Qui d'un pied nu aura laissé l'empreinte? Qui a rendu iridescente l'eau? Qui préserva la braise sous la cendre? Qui dessina ce visage d'enfant? C'était un chant de rien plus que quelques notes. Qui a voulu le chant dans la parole? Nul n'a voulu, nul n'est venu ni parle, nul n'est passé que nous ne sûmes pas. Et nul n'a bu au verre que je pose, ni pris du fruit qui était devant moi. Un peu de vent fait remuer la poussière d'herbes sèches, de graines sur le chemin. L'été, un éblouissement comme est la neige, celle qui vient légère et ne dure pas, et rien de nous n'en trouble la lumière d'eau qui s'est condensée puis s'évapore, d'où la sérénité, même l'allégresse de ces instants qui savent que n'est rien. Flocon la main qui avait pris le verre, autre flocon l'été, le ciel, les souvenirs. Ne cesse pas, voix dansante, parole de toujours murmurer, âme des choses, qui écolore et dissipe les choses, les soirs d'été où il n'est plus de nuit. Voix qui porte de l'être dans l'apparence, qui les mêle comme flocons de même neige. Voix qui presque s'étue lorsque le rêve demanda trop et crut presque obtenir, et qui jouera à clore nos paupières en se pressant riante contre nous. Puis nous verrons ces signes sur le sable qui gratigna en dansant son pied nu. Ne cesse pas, voix proche, il fait jour encore, si belle est même la lumière comme jamais. Reviens dehors, petite vie dansante, si le désir de danser même seul t'enveloppe. Vois, tu as sur le sable assez de lumière pour jouer avec l'ombre de ton corps et même, sans plus craindre, offrir tes mains au rire qui s'enténèbre dans les arbres. Ô musique, ô rumeur de tant d'autres mondes, n'est-ce pas là ce que tu désirais? Le soir qu'amour te fit, comme il fut dit, le cœur serré dans la salle des cendres. Elle chantait « Je suis, je ne suis pas, je tiens la main d'une autre que je suis, je danse parmi mes ombres, l'une tourne vers moi, elle est riante, elle est sans visage. Je danse avec mes ombres sur le chemin, je ne trouve qu'en elle ma joie d'être. Je sais pourtant qu'avant l'aube, le fer déchirera l'étoffe de la danse. Et je me tourne alors vers cette plus gauche, cette plus hésitante et comme étonnée, qui se tient en retrait dans la musique. Vois, ce n'est que pour toi que je ris et danse. En ombre, elle était bien, une fantasque découpe du langage sur le ciel. Ainsi, nuées et arbres, quand ils mêlent leur fumée dans l'eau calme, Et c'est le soir, ombre, mais le seul bien qui soit au monde, puisqu'elle puise à toute chose simple l'eau qui déborde avec l'odeur des feuilles, du broc posé sur les dalles sonores. Elle chantait, et j'ai eu dans ses mots de quoi presque finir ma longue guerre quand je venais près d'elle. Je touchais ses mains, je regardais ses doigts défaire ce fil qui a ses nœuds dans l'invisible. Était-elle dehors à jouer, une simple servante enfant qui a charge du monde? Était-elle la parque qui aurait moins à mettre à mort qu'à mener sous des arbres ou souriante à qui serait près d'elle? Écoute, dirait-elle, les mots se taisent, leur son n'est plus qu'un bruit, et le bruit cesse? Sous la plume d'Yves Bonnefoy, on n'observe guère de clôture des textes sur eux-mêmes, mais plutôt les étapes d'un cheminement. Le poète déclare à ce propos « Je n'écris pas de poème ». S'il faut entendre par ce mot un ouvrage bien délimité, autonome, ce que j'écris, ce sont les ensembles dont chacun de ces textes n'est qu'un fragment. Découvrons quelques fragments donc. Voici quelques-uns des poèmes regroupés dans « La pluie d'été ». Les rainettes le soir. Rauques étaient les voix des rainettes le soir, là où l'eau du bassin coulant sans bruit brillait dans l'herbe. Et rouge était le ciel dans les verres vides. Tout un fleuve, la lune sur la table terrestre, prenez ou non nos mains. La même abondance, ouvert ou clos nos yeux, la même lumière. Il s'attardait le soir sur la terrasse, d'où partaient les chemins de sable clair du ciel sans ombre, et si nue devant eux était l'étoile, si proche était ce sein du besoin des lèvres, qu'il se persuadait que mourir est simple, branche écartée pour l'or, de la figue mûre, une pierre. Matin que nous avions, je retirai les cendres, J'allais emplir le broc, je le posais sur le dallage. Avec lui ruisselait dans toute la salle l'odeur impénétrable de la menthe. Ô souvenir, tes arbres sont en fleurs devant le ciel. On peut croire qu'il neige, mais la foudre s'éloigne sur le chemin. Le vent du soir répand son trop de graines. Une pierre. Tout était pauvre, nu, transfigurable. Nos meubles étaient simples comme des pierres. Nous aimions que la fente dans le mur fût cet épi dont essaimaient des mondes. Nuées, ce soir, les mêmes que toujours, comme la soif, la même étoffe rouge, dégrafée. Imagine, passant, nos recommencements, nos hâtes, nos confiances. La pluie d'été. Mais le plus cher, mais non le moins cruel, de tous nos souvenirs, la pluie d'été. Soudaine, bref, nous allions, et c'était dans un autre monde. Nos bouches s'enivraient de l'odeur de l'herbe. Terre, l'étoffe de la pluie se plaquait sur toi. C'était comme le sein qu'eût rêvé un peintre. Et tôt, après le ciel, nous consentait cet or que l'alchimie aura tant cherché. Nous le touchions, brillant sur les branches basses. Nous en aimions le goût d'eau sur nos lèvres. Et quand nous ramassions branches et feuilles chues, ça te fumait le soir, puis brusque ce feu. C'était l'or encore. Une pierre. Une hâte mystérieuse nous appelait. Nous sommes entrés, nous avons ouvert les volets, nous avons reconnu la table, l'âtre, le lit. L'étoile grandissait à la croisée. Nous entendions la voix qui veut que l'on aime au plus haut de l'été, comme jouent les dauphins dans leur eau sans rive. Dormons, ne nous sachant, sein contre sein, souffle mêlé, main dans la main, sans rêve. Une pierre. Nous nous étions fait don de l'innocence. Elle a brûlé longtemps de rien que nos deux corps. Et nos pas allaient nus dans l'herbe sans mémoire. Nous étions l'illusion qu'on nomme souvenir. Le feu naissant de soi. Pourquoi vouloir en rassembler les cendres désunies? Aujourd'hui, nous avons rendu ce que nous fûmes à la flamme plus vaste du ciel du soir.
Thank you.
écrire de la poésie, c'est pour Yves Bonnefoy rendre le monde au visage de sa présence. Lors d'un entretien avec Bernard Falciola, Yves Bonnefoy nous illustre son idée du monde et d'organisation des paysages poétiques. Le monde que nous recevons, de ce qui en nous questionne l'être au dehors, qu'est-ce que c'est au juste ? La rencontre de présences élémentaires que nous tenons pour réelles, les fruits, les arbres, quelques êtres, quelques façons d'exister et des mirages, comme en forme dans tout psychisme les aspirations instinctives, les préjugés, les refus, un total, une rêverie où ces fruits, ces arbres, mais les montagnes aussi, et telle sorte de pierre, et la huppe qui vole sur les rochers comme une fée travestie, et nos proches. Et toutes nos valeurs, toutes nos croyances se sont recomposées en une figure qui, s'il n'y avait pas l'élaboration vraiment poétique, reflèterait peut-être surtout mon refus à la finitude. J'espère que cette émission et les lectures extraites des planches courbes aux éditions Poésie Gallimard vous a donné l'envie de découvrir par vous-même la poésie de Yves Bonnefoy. Vous pourrez retrouver Jardin d'Isis et son hommage aux poètes vivants dans notre région et ailleurs chaque deuxième et troisième jeudi du mois de 12h15 à 12h45 sur Radio FM Plus fréquence 91 à Montpellier, sur Alliance Plus fréquence 103.1 à Nîmes, également sur internet sur le site www.radiofmplus.org. Vous pouvez également nous téléphoner en appelant au 04 67 63 11 22.